RFI, vous écoutez la Radio du Monde, bienvenue, il est 3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Gallen.
À la une de l'actualité, la Syrie, les contacts avec les délégations étrangères s'établissent peu à peu. Ce dimanche, c'est le ministre des Affaires étrangères turc qui a rencontré Abu Mohamed El-Joulani. L'ancien chef d'Al-Qaïda est apparu avec une cravate autour du cou. Dans ce journal, nous serons également en Chine où 56 cadres du Parti communiste chinois sont poursuivis pour corruption en 2024, un quart de plus que l'an dernier. Et puis, êtes-vous fatigué ou stressé par l'information ? En France, c'est le cas d'une personne sur deux, vous l'entendrez. En Syrie, les diplomates et responsables politiques se rendent auprès des nouvelles autorités pour rencontrer Abu Mohamed El-Joulani. Ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères turc a rencontré l'ancien chef d'Al-Qaïda. Il s'est affiché pour la première fois en public avec une cravate, une manière de se démarquer de l'exemple des talibans en Afghanistan, selon Cédric Labrousse, doctorant à l'EHESS.
Joulani a vu aussi le regard de la communauté internationale vis-à-vis de cette nouvelle administration talibane qui finalement n'a pas obtenu énormément de bons retours. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, le Royaume-Uni a rétabli des contacts avec le gouvernement syrien renouvelé là, récemment, en l'espace de, qu'on soit bien clair, 2 semaines. Ils ont mis 2 ans et demi avec les Afghans. Vous voyez ? Et donc je pense que Joulani a compris qu'il fallait, s'occidentaliser pour gagner en fait l'oreille de l'Occident. Parce que pourquoi l'Afghanistan ne se reconstruit pas ? Parce que qui a les capitaux de réinvestissement ? Certes les pays du Golfe qui commencent à réinvestir en Afghanistan, mais en fait ce sont surtout les pays occidentaux. Et donc pour Joulani, dans un opportunisme politique qui est vraiment impressionnant, hein, il a compris que cette attitude était nécessaire.
Lors de cette rencontre, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a déclaré que les sanctions contre la Syrie devaient être levées dès que possible. Il a également estimé qu'il n'y avait pas de place pour les Kurdes en Syrie dans la nouvelle organisation du pays. Le parti des travailleurs du Kurdistan, ennemi juré de la Turquie, considéré comme terroriste par Ankara. Les combats se poursuivent à Gaza. 28 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans des frappes israéliennes. Vendredi, un bâtiment scolaire a été touché et a fait 8 morts, dont 4 enfants. Le pape François condamne pour la deuxième fois en 2 jours la cruauté de ces frappes. Israël l'accuse de 2 poids 2 mesures, et ce, malgré les espoirs d'un cessez-le-feu d'ici la fin de l'année. Le Hamas et 2 autres groupes palestiniens avaient déclaré qu'un accord de trêve était plus proche que jamais. RFI, 6h03 à Port-Louis. L'archipel des Chagos est au cœur des négociations entre le Royaume-Uni et l'île Maurice. L'archipel abrite la base américaine de Diego Garcia et avait été détaché de Maurice par la Grande-Bretagne juste avant l'indépendance, en 1968, un différend territorial qui semble en voie de résolution car un accord de principe avait été annoncé par l'ancien gouvernement peu à peu avant les élections législatives, mais le nouvel exécutif en place depuis le 11 novembre estime qu'il ne répond pas aux aspirations du pays. Correspondance d'Abdoulaye Herli à Port-Louis.
Au Parlement, le Premier ministre a déclaré que l'accord politique n'apporte pas les bénéfices attendus pour Maurice. Cette situation a conduit à de nouvelles négociations. La Grande-Bretagne a dépêché à Maurice Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale, et Harriet Matthews, directrice générale pour l'Afrique. 2 enjeux majeurs sont en discussion. Le premier concerne la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Londres reconnaît cette souveraineté, mais propose que Maurice cède pour 99 ans ses droits sur Diego Garcia, où se trouve la base américaine. Pour l'équipe de Navin Ramgoolam, ce compromis pose des problèmes juridiques car la constitution mauricienne intègre les Chagos dans son territoire. De plus, la Cour internationale de justice a déclaré illégale la présence britannique sur l'archipel. Céder une partie du territoire à la Grande-Bretagne contreviendrait donc à cette décision. Le second enjeu majeur concerne les redevances d'occupation du territoire. Le montant et la rétroactivité du loyer sont en négociation. Selon le Premier ministre mauricien, Londres souhaite finaliser cet accord avant l'installation de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier. Abdullah Herali, Port-Louis, RFI.
Direction la Chine désormais, 56 cadres du Parti communiste chinois poursuivis pour pour corruption en 2024. La croisade de Xi Jinping contre les détournements de fonds s'intensifie, car depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président chinois s'est juré de purger les corrompus de l'appareil du pouvoir. Vincent Souriau.
La chasse à l'homme n'épargne personne. Tombé cette année, le ministre de l'Agriculture, limogé au mois de mai, exclu du Parti communiste en novembre et arrêté il y a une dizaine de jours. Le directeur général de l'administration des sports et président du comité olympique, ou bien l'ancien patron de la justice chinoise. L'agence anticorruption se conforme aux directives de Xi Jinping, qui lui avait demandé en 2022 de se concentrer sur les plus gros poissons. L'explosion des procédures vise aussi le secteur aéronautique. Plusieurs dizaines de cadres civils de la aviation et de la défense, mise en cause, y compris dans des domaines très sensibles comme la recherche et le développement de nouveaux missiles. Mais l'armée n'échappe pas à la purge. Deux anciens ministres de la défense inculpés, plusieurs généraux déchus de leur grade. Le pouvoir central veut remettre la main sur les contrats d'achat et de vente de matériel militaire où les pots de vin sont monnaie courante. On compte enfin quatre banquiers d'État mis en examen et certaines étoiles montantes prises la main dans le sac, comme l'adjoint au maire de Pékin, 52 ans, accusé d'avoir accepté de somptueux cadeaux en échange de faveurs administratives.
Vincent Souriau du service international d'RFI. Parfois, vous arrive-t-il d'être fatigué ou stressé par l'information ? D'après un rapport de la Fondation Jean Jaurès en décembre 2024, en France, c'est le cas d'une personne sur deux. Alors à Cadenay, un village du Vaucluse, notre journaliste Sophie Bourlet est allée à la rencontre des commerçants pour savoir ce qu'ils en pensent.
Marie et Mercière, Didier vend de la paella. Tous les deux ont la cinquantaine et en ont marre de l'actualité.
Je regarde même plus la télé. C'est du vu, c'est du redit, c'est toujours pareil.
Donc du coup, vous ne regardez plus la télé, vous lisez plus le journal.
Le journal, dès que je suis au café, je lis la première page. Ou la météo, des fois. Moi, s'il y a eu quelque chose dans le village ou quoi, mais on n'en parle jamais.
J'écoute la radio. J'écoute la radio, même décortique pas assez la situation. Des gens, en fait. On parle des 20%, 30% moins concernés, en fait. Là, les politiques, les stars, c'est pas la vraie vie.
Alexis, 38 ans, vend des œufs bio et s'informe principalement à la radio.
Je trouve que c'est assez anxiogène, en fait. On a souvent tendance à parler des choses qui marchent pas ou qui se passent mal que des choses qui réussissent. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, ça donne un peu une négativité ambiante à tout le monde, quoi, au lieu de tirer les gens vers le haut, ça les laisse un peu chacun de leur côté à se dire que tout va mal. Alors que non, les choses vont plutôt bien.
Parmi les principaux reproches, trop de politiques politiciennes, un manque de représentativité, des sujets en boucle ou trop négatifs. Sophie Bourlet, Cadenay, RFI.
Il est le prodige d'un sport dont les Anglais raffolent. Luke Littler s'est qualifié ce samedi à Londres pour le troisième tour des championnats du monde de fléchettes, une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur outre-Manche. À 17 ans, Luke Littler est devenu en quelques mois la coqueluche du public. Les précisions depuis Londres de Sarah Menaï.
C'était le main event ce samedi soir à Alexandra Palace, la Mecque des fans de fléchettes. Devant près de 4000 spectateurs qui, tradition oblige, étaient déguisés en Père Noël ou en banane, Luke de Nuke Littler a fait son entrée en piste. La bombe nucléaire, comme le surnomment les Anglais, inconnue du grand public il y a encore un an, et cette année plus populaire au Royaume-Uni en termes de recherche Google que le Premier ministre Keir Starmer, élu au mois de juillet. Ce samedi, Luke Littler n'a pas déçu ses supporters. Le natif du nord-ouest de l'Angleterre a battu, non sans difficulté, son adversaire du jour, son compatriote Ryan Mickle. Littler, avec une nervosité normale pour un jeune athlète et même une émotion non dissimulée en fin de match.
J'étais un peu anxieux. Il a fallu que j'aille trouver la force en moi d'aller gagner ce match. J'ai voulu répondre à des questions tout de suite après le match, mais j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je me suis demandé ce qu'il m'arrivait. Les supporters ont été incroyables, mais c'était juste un peu trop d'émotion pour pouvoir m'exprimer.
Le rituel culinaire de Luke Littler après une victoire, un kebab ou une pizza, un régime d'adolescent pour un sportif hors normes. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et nous quittons les cibles de fléchettes pour retrouver les terrains de football. Festival de but en Angleterre, Liverpool assomme Tottenham 6-3. Le Real Madrid termine l'année sur une bonne note en battant Séville 4-2 avec un Mbappé en forme. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.